écoutez Radio France Internationale, 4 heures en temps universel, 5 heures ici à Paris. Une nouvelle demi-heure d'actualité, Diane Berger, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à toutes et tous.
Le journal d'abord est le Qatar qui suspend sa médiation entre Israël et le Hamas.
Les négociations sont au point mort entre les deux parties. Il reste tout de même un canal de discussion via l'Égypte. 1 million d'électeurs appelés aux urnes à l'île Maurice. Les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure. On fait le point dans quelques minutes sur les enjeux de ces législatives. Au sommaire également, le sommet de l'APEC ce dimanche au Pérou. Les pays membres de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique qui auront les yeux rivés sur l'attitude de la Chine et des États-Unis. Et puis nous serons sur la ligne de départ du Vendée Globe, ça c'est juste après ce journal. Le Qatar confirme suspendre sa médiation entre Israël et le Hamas. L'émirat du Golfe, qui héberge le bureau politique de l'organisation palestinienne, responsable de l'attaque du 7 octobre à l'origine de la guerre à Gaza. C'est aussi la médiation du Qatar qui avait permis le cessez-le-feu d'une semaine l'an dernier, grâce auquel 50 otages avaient pu être libérés contre 150 prisonniers palestiniens. Mais les Qatariens annoncent que les discussions ne reprendront que lorsque les parties feront preuve, je cite, de volonté et de sérieux. Sans cette médiation, quelle sera désormais l'influence et le rôle du Qatar dans la région ? Élément de réponse avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Pour les Qataris, c'est clair, il s'agit d'un retrait sur la scène régionale et sur la scène diplomatique. Mais ça ne veut pas dire que le Qatar ne recevra plus des dirigeants du Hamas ou qu'il va demander le départ de Khaled Meshaal et d'autres personnalités au Qatar. Je pense que les liens vont continuer. Là, nous sommes face à une pression énorme de la part du Congrès et de l'administration américaine, et aussi la conviction des Qataris qu'aujourd'hui les négociations sont à l'arrêt et que le rôle de médiateur du Qatar n'est plus pertinent dans cette conjoncture. Et il reste un autre médiateur qui est bien sûr l'Égypte, c'est ce qu'on appelle le canal historique.
Hasni Abidi, le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Des milliers d'Israéliens ont manifesté à Tel Aviv après l'annonce de cette suspension de la médiation. Des Israéliens inquiets concernant l'avenir des otages. Et pendant ce temps, la guerre continue dans la bande de Gaza. Hier, l'ONU a alerté concernant un risque de famine imminente dans l'enclave. Israël a rejeté l'idée en affirmant que le rapport de l'ONU est biaisé. Au Liban, le bilan des dernières frappes israéliennes hier est d'au moins 40 morts, des raids qui ont touché la région de Baalbek et le sud du pays. Par ailleurs, l'armée israélienne désavoue plusieurs de ses soldats après la diffusion d'une vidéo qui les montre en train de brûler un drapeau libanais. Une image qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. 1 million d'électeurs votent depuis une heure à l'île Maurice. Législative anticipée ce dimanche pour désigner 62 des 70 députés que compte l'Assemblée. Les 8 autres seront nommés. Le Premier ministre Pravind Jugnauth a décidé de dissoudre le Parlement début octobre. Celui qui est chef du gouvernement depuis 2017 espère ainsi obtenir à nouveau la majorité avec sa coalition, l'Alliance du Peuple. Face à lui, une autre coalition, l'Alliance du Changement, portée par Navin Rangoulam, lui-même ancien Premier ministre de l'île. Amélie Tullet.
Deux blocs emmenés par deux vétérans de la politique mauricienne ayant en commun d'être chacun fils d'anciens premiers ministres, et une autre coalition veut être la troisième force dans ce scrutin, l'Union Réforme. Un scrutin après une campagne électorale de 6 semaines troublée par l'affaire des écoutes téléphoniques, la diffusion d'enregistrements de personnalités politiques et médiatiques, et notamment un extrait de conversation compromettante attribué à un haut responsable de la police donnant des instructions pour maquiller un décès. Les autorités mauriciennes dénoncent des manipulation via l'intelligence artificielle, mais Human Rights Watch s'inquiète du choix du gouvernement de suspendre les réseaux sociaux durant moins de 48 heures. Et si leur usage a été rétabli depuis, l'ONG rappelle le besoin de garantir l'accès à l'information et appelle à une enquête approfondie sur ce que les enregistrements auraient pu révéler. Pour ces législatives, le Premier ministre sortant espérait capitaliser sur l'accord passé début octobre avec le Royaume-Uni pour la reconnaissance de la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos. Mais durant la campagne, les électeurs se sont montrés plutôt préoccupés par l'insécurité, la lutte contre le trafic de drogue et leur pouvoir d'achat.
Les bureaux de vote fermeront à 18h, heure locale, et les résultats sont attendus demain. Plusieurs personnes arrêtées à Cuba, accusées de troubles à l'ordre public après des manifestations contre le manque d'électricité. Le courant a été coupé pendant 2 jours cette semaine à cause de l'ouragan Raphaël, après déjà une panne massive il y a 3 semaines. Il est maintenant 23h05 à Lima, au Pérou, où les représentants de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, se réunissent ce dimanche. Un sommet où les rôles de la Chine et des États-Unis devraient attirer beaucoup d'attention. Martin Chabal.
Pour le Pérou, la venue du président chinois Xi Jinping et du président américain Joe Biden est un événement. Ici, la Chine espère renforcer son influence sur les 2 continents séparés par l'océan. Xi Jinping va inaugurer un mégaport chinois géré par une entreprise chinoise au nord de Lima, l'un des plus grands ports d'Amérique du Sud, qui permettra à la Chine d'exporter encore plus de marchandises dans la zone. Joe Biden, pour l'un de ses derniers déplacements avant le G20 au Brésil, tentera sûrement de rassurer Taïwan. La toute récente élection de Donald Trump pourrait enclencher une nouvelle dynamique dans la région, pas forcément à l'avantage de Taïwan face à Pékin. Enfin, vient le rôle de la Russie dans ce sommet de l'APEC, c'est encore le gros point d'interrogation alors que l'événement ouvre aujourd'hui. Vendredi, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov annonçait la venue du vice-premier ministre russe Alexei Overtchouk sans qu'on sache vraiment ce qu'il y fera. On ne sait pas si Vladimir Poutine fera passer des messages à son homologue américain. De son côté, le Pérou, pays hôte, devrait faire face aux manifestations et aux grèves. Les Péruviens, mécontents de la politique nationale menée par leur présidente Dina Boluarte, ont appelé à bloquer le pays lors du sommet. Martin Chabal, Lima, RFI.
On évoquait à l'instant l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Les résultats définitifs de l'Arizona sont tombés il y a environ 1 heure et c'est le milliardaire qui l'a emporté dans cet État. Concrètement, cela signifie qu'il a gagné dans les 7 États clés du scrutin. Le pays se prépare désormais à la transition politique. Joe Biden, le président sortant, va recevoir mercredi prochain son successeur. Une rencontre à la Maison-Blanche pour tenter une passation de pouvoir dans le calme. Loin de la tempête d'il y a 4 ans, quand le milliardaire avait refusé de reconnaître sa défaite et ses partisans avaient alors pris d'assaut le Capitole. La victoire éclatante de Donald Trump, qui continue de susciter des remous à travers le monde, c'est le cas par exemple au Japon, le plus grand allié des États-Unis en Asie. Reportage à Tokyo de Bruno Duval.
Le monde sera-t-il plus dangereux quand Donald Trump entrera en fonction? C'est ce qui se dit beaucoup au Japon depuis mardi. Et c'est ce que pense cette Tokyo 8.
Il va pactiser avec la Corée du Nord qui nous menace tant avec ses missiles. Et rien ne dit qu'il soutiendra militairement Taïwan si la Chine l'attaque. Avec lui, nous risquons de perdre ce qui nous est le plus cher, la paix.
59% des sondés japonais redoutaient une victoire de Donald Trump. Tout comme 49% des chefs d'entreprise. Car en 2018, il imposa des droits de douane additionnels sur l'acier et l'aluminium nippon et menaça de faire pareil avec les voitures japonaises importées aux États-Unis. L'Amérique d'abord, protectionniste comme jamais, c'est aussi une préoccupation pour les Japonais.
Les États-Unis barricadés derrière des barrières douanières, c'est le scénario du pire pour nos entreprises exportatrices. Elles risquent de devoir licencier des milliers de salariés.
Le dollar qui s'envole par rapport au yen, qui lui dégringole, c'est terrible pour nous les petites gens, puisque ça renchérit le prix de tous les produits importés.
Le Japon avait réussi à relativement contenir Donald Trump lors de son premier mandat, car il était assez proche du premier ministre de l'époque, Shinzo Abe. Mais l'actuel chef du gouvernement, lui, Shigeru Ishiba, est très affaibli depuis la déroute de sa majorité aux récentes élections législatives. Trump va n'en faire qu'une bouchée, prédisent déjà certains commentateurs. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Un cri de colère dans les rues de Valence en Espagne. Assassin, c'est le slogan scandé par des milliers de manifestants, 130 000 selon les autorités. Moins de 2 semaines après les inondations qui ont fait 220 morts dans la région, les participants accusent le président de la région et le premier ministre d'avoir sous-estimé les risques et mal coordonné les secours. En France, les syndicats de cheminots menacent d'une grève illimitée à partir du 11 décembre, à 10 jours donc des vacances de Noël. Les organisations dénoncent le démantèlement de la filière de fret de la SNCF, la Société française des chemins de fer, et ils protestent également contre les modalités de l'ouverture à la concurrence des lignes régionales. Nouvel épisode du bras de fer qui oppose Amazon aux libraires français. Depuis mardi, le géant du numérique propose à nouveau la livraison gratuite pour les livres. Pourtant, la réglementation française prévoit 3 euros de frais de port obligatoires pour éviter une concurrence trop écrasante contre les libraires indépendants. Mais la loi prévoit aussi une exception si les livres sont retirés dans des commerces de proximité. Et pour cela, la plateforme américaine profite de casiers automatisés installés dans de nombreux magasins. Une faille juridique dans le dispositif qui inquiète les libraires. Reportage à Paris de Constantin Jallot.
Avec cette livraison gratuite en ligne, c'est la double peine pour les libraires et les lecteurs, explique Pablo Yenover, employé ici depuis 15 ans.
Le fait que les gens commandent sur Internet font qu'ils passent peut-être moins en librairie, ce qui fait qu'en fait la visibilité de certains titres disparaîtrait, tout simplement. Ça pourrait en fait réduire la quantité de nouveautés à l'année et faire en sorte que certains titres qui auraient vu le jour et qui sont de réelle qualité n'apparaissent plus. Ça peut aussi être laborieux pour nous, parce qu'on a aussi un service de vente par correspondance, et que Amazon a déjà grignoté en bonne partie, donc on arrive à s'en sortir avec des tirages un peu spéciaux et des choses qui sont signées par les auteurs qu'on ne peut avoir que chez nous, par exemple, ce qu'on n'a évidemment pas sur des sites en ligne.
D'autres clients reconnaissent les avantages d'une commande par Amazon. Devant l'étagère des BD Mortel Adèle, Mathilde est venue avec sa fille à la recherche d'un cadeau d'anniversaire.
C'est le côté pratique qui fait que quand j'ai besoin d'un ouvrage rapidement, pour un besoin pour l'école, pour un cadeau, ou ça m'arrive de passer par Amazon. Après, j'essaye de privilégier quand même les librairies autour de chez moi, et quand je peux, je m'y rends, comme aujourd'hui, ici.
Le syndicat des libraires français interroge la légalité de cette nouvelle stratégie d'Amazon et espère son interdiction.
Constantin Jallot à Paris. En football, le retour du Paris Saint-Germain en bonne forme. Le club s'impose 2-4 contre Angers en 11e journée de Ligue 1. Et en rugby, les Bleus d'Antoine Dupont dominent largement leurs adversaires japonais. Le score final du match d'hier soir au Stade de France, c'est 52-12. Et puis la grande actualité sportive du jour, c'est le Vendée Globe. Mais ça, on y revient juste après ce journal.
Diane Berger.
Nous sommes donc encore ensemble une quinzaine de minutes avec, je vous en parlais, un reportage sur la ligne de départ du Vendée Globe au Sable d'Olonne. 40 marins s'apprêtent à braver la mer à la voile dans une course absolument mythique. Ensuite, la chronique ligne de défense ce dimanche, la dronisation de l'industrie de l'armement. Puis, c'est dans ta nature, Florent Guignard nous parlera des prédateurs les plus improbables du monde animal. Et dans sa chronique Vivre ailleurs, Corinne Mandjou reviendra à elle sur l'élection américaine et la réaction des expatriés aux États-Unis. Moins de 8 heures avant le top départ de l'une des courses les plus impressionnantes de la planète, le Vendée Globe, un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est l'un des plus grands défis du sport du monde. Sur la ligne de départ au Sable d'Olonne, dans l'ouest de la France, 40 marins, 34 hommes, 6 femmes de 11 nationalités différentes qui vont donc partir aujourd'hui à l'assaut des océans. Les premiers devraient être de retour d'ici 2 mois et demi, mais il faut rappeler que déjà, réussir à venir au bout de cette course est un exploit en soi. Reportage sur place de Thomas de Saint-Léger.
Incroyable!
Faire la course autour du monde, sur un bateau, seul, sans dormir plus de 6 heures par jour, porté par les éléments, par un courage, un physique et un mental hors normes, le Vendée Globe est un défi d'extra-marin bien difficile à comprendre pour le commun des terriens.
C'est long, je me vois mal. Moi. Et vous, vous voyez les gars, là, deux mois et demi là-bas?
Non, je crois pas.
Dans les premiers jours, à mon avis, ça va, mais après tu commences à t'ennuyer.
Ah oui. Bah non, je pense pas que tu t'ennuies.
Pourquoi?
Avec tout ce qu'il faut faire.
Moi, je pense surtout la nuit, quand ils sont tout seuls sur ces montagnes de mer, ça fait un peu peur.
En fait, je suis impressionnée par le nombre de femmes et par la folie de toutes les participants, parce que quand même, c'est à chaque édition qu'il y a des naufrages, qu'ils peuvent perdre la vie, mais ils continuent.
Ils continuent ou se lancent pour la première fois, mais pourquoi?
Il y a 8 ans, j'y connaissais rien, j'avais navigué 2 fois en solitaire dans ma vie, 2 fois 6 jours, et je partais pour 100 jours de navigation. C'était l'inconnu total, et j'y allais pour me battre contre ma peur, pour essayer de devenir un homme.
8 ans plus tard, Éric Bellion repart pour un tour du monde, toujours fasciné, lui le Versaillais, né loin des mers et des océans.
Je suis venu à ça par la lecture et par le rêve. Pour moi, très clairement, c'est le défi ultime. Il n'y a rien au-dessus du Vendée Globe en termes d'extrême solitude, en termes d'extrême vulnérabilité à la nature. Il n'y a aucun sport, aucune discipline, aucun travail au monde qui demande à un homme ou une femme d'être aussi loin, aussi seul, aussi longtemps, dans un univers totalement hostile.
C'est le meilleur style, oui, mais aussi, c'est le meilleur aussi qui peut être le plus magnifique du monde.
La Britannique Samantha Davis, quatrième de l'édition 2009.
Un côté stressant, angoissant, mais aussi un côté de rêve d'aller chercher ces conditions dans le Grand Sud, de surfer sur les vagues à haute vitesse avec des albatros qui nous suivent. C'est un peu ça qu'on va chercher.
Et même ceux qui partent d'abord pour la course, le match, finissent par trouver l'aventure. Jérémy Bayou, favori de la dernière édition, mais rapidement victime d'une avarie.
D'avoir pointé en tête au bout de deux jours, d'avoir tapé un truc, d'avoir dû faire demi-tour, de repartir neuf jours après tout le monde et au bout, d'avoir réussi à boucler la boucle, ça a été une aventure intérieure assez éprouvante, mais riche. Je pense que ça m'apporte beaucoup dans ce que je suis devenu ou ce que je suis depuis ce moment-là. Et j'espère dans ce que je vais être sur ce prochain Vendée Globe.
Alors bon vent et rendez-vous dans quelques semaines au même endroit. Thomas de Saint-Léger, Les Sables d'Olonne, RFI.
Top départ de la course à 12h02, temps universel. Quatre heures et quasiment 16 minutes en temps universel, l'heure de la chronique ligne de défense. Qu'ils soient sous-marins ou de surface, de surveillance ou de combat, les drones font une entrée tonitruante au sein des flottes militaires. Ils étaient d'ailleurs partout dans les allées du salon Euronaval cette semaine, près de Paris. Véritable reflet d'une dronisation massive et rapide des marines, Franck Alexandre.
Effilé comme une torpille, caréné comme un bateau, il n'y avait pas une allée, pas un stand sans drone au salon Euronaval. Une production à foison, fruit de l'imagination de PME et des grands de l'industrie, au premier rang desquels Naval Group, Pierre-Antoine Flich.
Chez Naval Group, on a deux grandes catégories de véhicules, des drones de surface et des drones sous-marins. Dans le drone de surface, on a en effet la gamme SeaQuest, dont le plus petit, le SeaQuest S, a déjà été lancé. C'est un produit industriel qui est en essai à la mer en ce moment. Il a pour particularité d'être embarquable sur des frégates et donc de pouvoir faire tout un tas de missions à leur profit comme une extension de leur capacité.
Il peut être armé ?
Il peut être armé.
Tout comme l'UQ-20 sous-marin de 10 tonnes et de 10 mètres, le bébé de l'ingénieur principal de l'armement, Patrick, de la DGA.
UQ-20 pour Unmanned Combat Underwater Vehicle. Quelque part, on est en train de défricher un nouveau domaine avec ce type d'engin. Aucune marine dans le monde aujourd'hui est dotée de ce genre d'outils. Donc on réfléchit beaucoup avec la marine nationale à quels pourraient être les usages de ce type d'engin et donc de facto quel armement il faudrait lui confier.
La mission de ce drone sous-marin, blanchir par exemple le goulet de Brest pour assurer la sortie en toute sécurité des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, fer de lance, de la dissuasion. Dans cette course au drone, les petites entreprises sont légion, tel Olcimar, avec son glider Sea Explorer, Nicolas Delmas.
C'est un planeur sous-marin, et on vient jouer sur la flottabilité de l'engin pour le faire couler ou remonter dans la colonne d'eau. Ça lui permet d'avancer horizontalement comme un planeur aérien.
Et quelle est sa fonction ?
Elle est multiple, donc ça dépend de la charge utile. Ici, pour l'exemple, on a une charge utile acoustique qui permet de faire de la détection ou de la localisation de bateaux. L'autonomie du glider, c'est plusieurs mois. Il est opérationnel. Ce qui va changer, c'est que c'est un produit qui est peu cher, qui est très facile à mettre en œuvre, et donc en fait, on peut en mettre beaucoup. Là, actuellement, de manière industrielle, on est que deux sociétés dans le monde. Donc il y a Alcimar qui est une société française et une autre société américaine.
Et si les petits acteurs comme Alcimar ont un coup d'avance, c'est qu'ils proposent déjà leur solution au marché civil. C'est la clé du succès, Martel Timothée Moulinier, délégué innovation du GICAN, le groupement des industries navales.
Au GICAN, on en est persuadé. Hein. Nous, on travaille bien ces deux axes. On a 50% de notre chiffre d'affaires qui est dans le militaire, 50% dans le civil. Et on voit que les technologies qui sont robustes dans le temps, c'est ceux qui sont capables justement d'adresser les deux marchés qui sont capables de faire face au cycle, au temps long du militaire avec le temps court, la réactivité plutôt du civil. On croit beaucoup à cette approche duale.
La France, qui accuse un retard dans le segment des drones aériens, semble cette fois avoir tous les atouts pour devenir numéro un des drones navals.
Franck Alexandre. C'est dans ta nature. Florent Guignard, on part aujourd'hui à la rencontre de quelques prédateurs remarquables qui usent de la ruse ou de la force pour attraper leur proie.
Nous sommes dans l'Atlantique, au large de la Norvège. Imaginez non pas un prédateur, mais 2,5 millions des morues ou des cabillauds. C'est la plus grande scène de chasse jamais observée par des scientifiques. Les morues ont repéré leur poisson préféré, des capelans, ils sont nombreux, c'est la période de reproduction. 23 millions d'individus massés dans un banc qui s'étire sur des kilomètres. parce que se regrouper, c'est une technique de défense partagée par de nombreux animaux grégaires, et parce que l'union fait la force, mais les morues étaient plus fortes et sont quatre fois plus grosses. Bilan, plus de 10 millions de poissons engloutis en quelques heures. Nous voilà à présent en Australie. Un incendie fait rage, des rapaces ont repéré la fumée et c'est par centaines qu'ils arrivent au-dessus du feu pour se saisir de branches enflammées qu'ils relâchent dans des zones encore épargnées par l'incendie pour obliger leur proie à sortir du bois. Le repas est servi bien chaud. On retourne au fond de l'eau où se promène un crustacé qui ressemble à une crevette aux couleurs incroyables, vert, rouge, bleu, c'est la skye. Sans doute le prédateur le plus terrible des océans grâce à la force de ses pattes et leur rapidité. Elle frappe en 1/1 millième de seconde à la vitesse de 100 km/h. C'est imparable, c'est le record chez les animaux. Et elle frappe d'une force inouïe, 1500 newtons, un coup de poing dans l'eau. L'orque, elle, préfère pour assommer ses proies les coups de boule.
Oh non, pas ça. Aïe.
Ou les coups de queue qui les catapultent en l'air. Mais le prédateur le plus efficace est au-dessus de tout soupçon, c'est la libellule, si gracieuse, 97% de réussite, grâce à une vision à 360 degrés et des ailes si performantes qu'elle peut même faire marche arrière. On passe à la question.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils.
C'est quoi un ovni ?
À ne pas confondre avec un ovni dans le ciel, un ovni est un objet flottant non identifié que les bateaux peuvent heurter en mer, des conteneurs, des bouts de bois, mais le plus souvent des baleines ou des dauphins. Alors la direction du Vendée Globe, la course à la voile autour du monde qui s'élance aujourd'hui, a décidé pour la première fois d'interdire deux zones de navigation dans l'Atlantique, dans les Açores sur la route migratoire des cétacés et au Cap-Vert où se reproduisent en ce moment les baleines à bosse. Un skipper raconte avoir tué une baleine en plein sommeil. Mais au-delà des bateaux de course qui filent de plus en plus vite, les navires qui sillonnent les océans tueraient par an 20 000 baleines. Ça fait chaque jour 55 victimes d'accidents de la mer.
Je te donnerai les océans, les collants et les fruits d'or.
Florent Guignard avec en bande-son Michel Polnareff. (23h22 à Washington. L'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche suscite des inquiétudes dans une frange de la population aux États-Unis. Et quelles conséquences pour les expatriés établis dans ce pays ? C'est le dossier de Corinne Manjou pour Vivre ailleurs.
Je ne crois pas que ce soit une bonne chose parce que le chaos n'est pas loin quand on a Donald Trump à la Maison-Blanche parce que c'est un homme qui n'est vraiment pas constant.
Originaire du Sénégal, Dame Babou vit à New York depuis plus de 35 ans. Il est le promoteur d'African Time, la première radio africaine de New York. Comme lui, beaucoup de subsahariens résidant aux États-Unis sont inquiets de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce n'est pas le cas des opérateurs économiques expatriés ici, toutes nationalités confondues. Le français Cyril Darmouni vit à Miami depuis 15 ans et dirige un cabinet d'expertise comptable.
Par rapport à ma vision plutôt business des États-Unis, je pense que c'est une très bonne chose. Sachant que le marché va continuer à se développer puisque Trump va libéraliser encore plus l'entreprise et l'industrie. Donc sur ce plan-là, c'est un plan très positif. Je ne vais pas parler de l'homme parce que je n'ai pas un avis positif sur la personne en elle-même, sur ses déclarations et sur son comportement avec les femmes. Je suis complètement opposé et même atterré. Voilà.
Pour Dame Babou, cette prospérité qu'espèrent les opérateurs expatriés avec Donald Trump est un leurre.
Moi, je ne l'avais pas senti. La première fois en 2016, c'est plutôt le récit que les républicains sont arrivés à installer dans la tête des gens. Même au niveau des démocrates, les gens pensent que le pays était plus prospère. Les chiffres ne l'ont pas confirmé. Et je ne pense pas qu'une économie de laisser faire et laisser aller va rendre les Américains plus prospères. Ensuite, une politique fiscale allégée pour les riches et peut-être les politiques sociales en vue des moins riches. C'est une politique qu'on peut comprendre, mais au-delà de ça, on ne peut pas prédire une gouvernance de Donald Trump.
Cyril Darmouni.
Peut-être que Trump est un bonimenteur et ne fera rien, mais en tout cas, je pense qu'il faut dissocier le personnage du programme politique. Il a expliqué clairement ce qu'il allait faire. Ce qui a fait beaucoup pencher la balance, c'est de se dire comment peut-on avoir plus d'argent pour nous, alors que les gens qui ont des moyens limités se sont retrouvés étranglés par l'inflation. Nous, on l'a vu sur Miami avec des taux d'inflation qui étaient de plus de 20%.
Donc c'était le sujet principal du coût de la vie.
La question de l'immigration inquiète dans les différentes communautés expatriées. Et là aussi, Cyril Darmouni est en phase avec la politique proposée par Donald Trump.
L'immigration illégale crée des gens qui ne peuvent pas travailler légalement du fait de leur statut. Et quand on ne peut pas travailler légalement du fait du statut, on se fait exploiter par n'importe quel employeur. Et vous allez avoir des employeurs peu scrupuleux qui vont préférer prendre des gens illégaux en les payant moitié prix que le salaire normal. Et donc, du fait à une personne légale qui aurait le même statut, qui viendrait de la même ville, etc., ne va pas trouver de travail parce qu'on va l'offrir à quelqu'un d'autre qui est illégal. Donc, il faut bien trouver un moment, un équilibre.
Dame Babou.
L'économie américaine ne peut pas se permettre de se débarrasser de 11 millions de personnes brutalement comme ça. Les agriculteurs s'appuient essentiellement sur ces immigrés-là. Et puis même à l'intérieur des villes, il y aura certainement des décrets qui vont durcir l'obtention de certains papiers, etc. Mais je ne m'attends pas à une déportation massive des illégaux qui sont ici sur place. C'est vrai que les gens sont très inquiets en ce moment parce que durant toute la campagne, son problème c'est la frontière. Mais si on se souvient de ce qui s'était passé en 2016 quand il disait qu'il veut aller construire un mur face au Mexique, mais il n'a pas pu le faire et je ne pense pas que ce soit très facile pour lui. Mais avec Donald Trump, on doit être vigilant.
Il y a à ce jour plus de 11 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis.
C'était Vivre ailleurs, une chronique signée Corinne Manjou. Il va être l'heure maintenant d'une petite pause musicale dans cette actualité. C'est l'heure de danser et de faire la meilleure chorégraphie du monde avec les Village People YMCA. YMCA des Village People, j'espère que vous avez dansé avec nous, comme Léa Boutin-Rivière à la rédaction chef qui a dansé avec nous, avec la régie qui a dansé avec nous. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sébastien Duhamel qui prend le relais pour l'actualité africaine.
Le Club RFI, Éric Amiens.
Un nouveau club RFI à l'île d'Idjoui. La famille du club s'agrandit avec la création d'un nouveau club à Idjoui, en RDC. Obero Koutimeni, président du club, raconte les particularités de son île qui se trouve au milieu du lac Kivu. Le Club RFI, de loin, l'émission la plus proche.
Le Club RFI, Éric Amiens.
Tout à l'heure, à partir de 19h41.
RFI.